Mais que c'est ça?
Hé, de qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh, ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Bon vendredi tout le monde, ou n'importe quelle autre journée si vous écoutez en podcast. On fait la deuxième partie d'un des mystères. Ben moi, le mystère qui m'a... Le premier mystère humain qui m'ont interpellé quand j'étais très jeune. On a parlé du triangle des Bermudes la semaine dernière on a donné quelques événements particuliers. On n'est pas rentré dans les détails autres que juste décrire quatre événements. Alors, on va faire comme dans les téléromans américains.
Dans l'épisode précédent.
Alors, on a parlé de quatre événements. Le premier qui est relativement crédible parce qu'on parle d'appareils bombardiers, des avions.
Oui.
De l'armée américaine.
Je vais poursuivre un peu en comédie avec le style dans l'épisode précédent. Nous avons parlé de l'escadrille 19 qui a disparu dans le triangle des Bermudes en 1945. Alors, c'est une escadrille de 5 bombardiers qui a disparu totalement, disparition totale. On sait pas trop.
On n'a jamais retrouvé les épaves, on n'a jamais retrouvé de survivants. Et là, si c'était un soap américain, le jumeau de l'escadrille apparaîtrait pour marier la femme qui... on s'embarque pas là-dedans. Donc, escadrille de 5 appareils. Un entraîneur qui était le pilote de tête.
Exact,
et 4 étudiants, si on veut, qui apprenaient on faisait un exercice de bombardement là, à basse altitude, qui n'était pas très loin, donc ça aurait dû être une routine.
Ben c'est ça, exact. Ils ne traversaient pas l'Atlantique, ils s'en allaient juste. Ils partaient de la Floride pour aller aux Bahamas pour faire un exercice de bombardement à basse altitude. Donc, très, très routinier.
C'était de la routine. Et sans rentrer, sans redonner tous les détails, sont disparus. On a eu quelques communications avec eux, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on a eu des comportements erratiques, bizarres un peu vers la fin, changer de direction de manière tout à fait illogique, et finalement, pouf!
C'est ça, il y a eu du brouillard, tout d'un coup, ils sont devenus totalement perdus, tu sais, comme vraiment perdus. Il y a un autre, sans refaire l'histoire complète, il y a un autre commandant qui passait pas loin en avion, qui a dit « vous êtes où? » Puis là, il a réussi à retracer leurs coordonnées. Il a dit « ben vous êtes en fait au sud de la Floride, vous n'êtes pas du tout aux Bahamas, là. Vous êtes près des Florida
Keys. » Donc, lui, il les a conseillé de remonter vers le nord.
C'est ça.
En mettant le soleil à leur gauche.
Exactement, c'est ce qu'ils ont fait.
Et on a tenté de faire ça, mais on n'a jamais retrouvé la terre ferme.
Non, exactement. Et là, il y a eu la panique. Moi, je pense que c'est le sentiment de panique.
Je pense que oui, il comporte le côté émotif humain qui a joué aussi dans cette situation-là et peut-être certains phénomènes météo également extrêmes qui auraient pu nuire à, malheureusement, un pilote d'expérience là, parce que l'entraîneur était quand même un pilote d'expérience.
Exact.
Deuxième histoire, c'est un monsieur Bruce, son papa et un ami de la famille.
Bruce Gernon, exactement.
Qui ont fait un bond de 80 km.
C'est ça, il avait 23 ans, il est parti avec son père puis un associé. Il était trois dans l'avion, un petit avion. Il voulait aller, ils sont partis des Bahamas, ils voulaient aller aux îles Bimini. Les îles Bimini, c'est entre le Miami et les îles Bahamas.
Donc, alors, techniquement, devait, selon le minutage, en vol, aurait dû être arrivé à sa destination, mais s'est rendu compte, coup de théâtre, qu'il était 80 km plus loin, chose qui était absolument impossible avec le nombre de minutes qui avait été en vol.
C'est ça, il était parti à 15h et il était supposé arriver aux îles Bimini là, vers 15h33. Vers 15h30, ça va prendre à peu près 30 minutes de vol. Au-dessus, entre les Bahamas et les îles Bimini, ils sont pognés dans l'orage, puis là, il y a un genre de vortex, un brouillard qui tourne autour de l'avion et... l'avion se retrouve au-dessus de Miami. Alors, comme tu le disais, il avait fait un bond de 80 km en une fraction de seconde. À 15h33 minutes, ils étaient au-dessus de Miami.
Chose qui, techniquement, était impossible dans le cas de l'avion qu'il pilotait, la trajectoire qu'il avait, etc., etc., n'aurait pas dû arriver en 33 minutes au-dessus de Miami.
On peut penser à un bond dans l'espace-temps, mais selon les météorologues... Un gros coup de vent, une basse pression pendant une longue durée, ce qui aurait poussé l'avion dans le vortex en question...
On parle d'un ensemble de facteurs météo concrets et scientifiquement prouvables qui auraient pu aussi créer un phénomène où l'avion aurait parcouru une distance beaucoup plus longue en un temps record.
Ceci est l'explication des météorologues, mais rien n'a été prouvé.
Non, alors,
c'est une théorie.
C'est difficile à reproduire de toute façon. Hein? Et je connais pas grand monde qui vont se porter volontaire d'aller piloter un avion dans un. puis tenter de recréer cette expérience-là.
Il y a l'objet sous-marin non identifié.
L'OSNI.
L'OSNI.
Ah, j'aime ça. C'est nouveau, ça. Je viens d'apprendre ça. Merci.
Ah, ben, plaisir. Alors, des objets qu'on aurait aperçus.
C'est pas vrai, pas juste. Ça fait une semaine que j'ai appris ça. J'ai appris ça la semaine passée. Oh! Alors, l'OSNI,
oui.
Qui est l'objet sous-marin non identifié.
Exact. Ce phénomène a été aperçu en 1980 à bord d'un sous-marin russe.
Ah oui, répète-nous le nom du russe, j'aime ça.
C'est Yuri Beketov.
Beketov.
Yuri Beketov.
Beketov.
Faut le dire avec une grosse voix pour l'accent
oui,
russe.
C'est...
Donc, Yuri Beketov.
Un monsieur de l'armée, donc, qui était capitaine de sous-marin.
Commandant, exact, de sous-marin.
En 1980, donc à l'époque que l'Union soviétique était tentée de c'était le concours avec les Américains, avec les États-Unis, de savoir qui était le plus fort, qui était le plus crédible. Et là, t'as un monsieur, lui, qui arrive et qui dit « Hey, il y a eu des affaires bizarres dans l'eau. »
Oui, qui a écrit sur son rapport, officiel là, de l'armée de la Russie.
Soit sûr de son affaire, parce qu'on n'y aisait pas avec la POC à cette époque-là.
Qui expliquait que, selon eux, ils ont vu des objets qui allaient à 420 km/h sur le radar du sous-marin, qui ont passé sur le radar, comme si ils défiaient, comme si c'était un peu en... défiaient les lois de la physique.
Ça se peut juste pas.
C'est ça.
Quelque chose qui se déplace à cette vitesse-là dans l'eau, c'est un phénomène qui se peut à peu près pas, parce qu'il y a la résistance de l'eau. On est bien placé ici à Havre-Saint-Pierre pour que les gens comprennent comment ça fonctionne quand un objet se déplace dans l'eau, un bateau, peu importe.
Il y a une résistance.
La résistance est incroyable. Là. Mm-hmm. C'est très, très fort. Alors, 420 km/h sous l'eau, faut que ça déménage. Là.
C'était probablement Poséidon ou Aquaman.
Ah, il y a des chances. Il y a des chances.
Mais selon Yuri Beketov,
Yuri!
C'était des créatures qui, selon lui, étaient peut-être des extraterrestres, mais ça nous dépassait de loin.
Ça va nous ramener à une des théories, parce qu'on a des théories scientifiques, mais il y a des théories beaucoup plus farfelues. Et quand les gens parlent de phénomènes sous-marins situés à l'intérieur du triangle des Bermudes, qui, je le rappelle, fait quand même 1 million de km², là, on parle pas de l'arrière-cour de quelqu'un, là, c'est gigantesque. Il y a des gens qui vont argumenter que ça prouve que l'Atlantide a déjà existé, mm-hmm. et que c'est là qu'elle serait située dans ce secteur-là et que monsieur le Russe aurait vu des habitants, peut-être des véhicules, des gens qui habitaient l'Atlantide là, se déplacer autour de son sous-marin.
On va peut-être faire des liens lors d'une éventuelle émission d'Aussi bizarre sur la cité Atlantide.
Oui, parce qu'il va falloir en parler, d'en faire un thème de l'Atlantide, parce qu'on y revient souvent, mais c'est un thème en soi. Là.
À force de couvrir tous les événements mystérieux, Jason va peut-être réussir à en résoudre un.
Peut-être, ça serait le fun. Hein?
À faire des liens.
À un moment donné, on va avoir un appel. Je reste à l'Atlantide, là, pour te faire une entrevue. Ça serait le fun. Si vous habitez l'Atlantide, info@commercial.com.
Alors, l'OSNI, l'objet sous-marin non identifié.
On est parti dans toutes les directions, mais ça reste quand même quelqu'un de crédible. Il est capitaine de sous-marin dans un pays qui ne tolère pas que quelqu'un fasse des choses farfelues. On parle de l'Union soviétique à l'époque. Et il a quand même mis dans son rapport qu'il avait observé sur les équipements des objets qui se déplaçaient à 420 km/h sous l'eau.
Rapport officiel de l'Union soviétique.
Ouais.
On parle pas de monsieur, comme on le mentionne souvent.
Non, oui, monsieur, madame, tout le monde, qui a un voyage de pêche après quelques consommations. J'ai vu quelque chose de bizarre dans l'eau.
Exact. J'étais dans ma grange, après avoir pris un petit coup, puis j'ai vu des drôles d'affaires. Non, là, c'était une équipe complète de l'Union soviétique dans un sous-marin, là, en 1980.
Et on s'est quitté la semaine dernière avec un bateau cargo.
Oui.
Qui fait à peu près 200-220 verges de long. Donc, quand même assez imposant. 11 000 tonnes qu'on parlait, rempli de maïs qui est disparu sans jamais donner signe de détresse ou quoi que ce soit.
Aucune trace du navire, aucun signal d'alerte, aucun signal de détresse du capitaine ou de l'équipage à bord. Comme si tout s'était passé en 5 secondes.
Et ça, on est encore en 1980. Oui. Donc, du trafic maritime, il y en avait énormément.
Ben, ça, c'est quelque chose qu'on mentionne dans les documentaires, sur les informations qu'on trouve sur Internet, paperasse, documentaire, partout, sur les sites fiables, bien sûr. C'est que, premièrement, le Triangle des Bermudes, là, c'est un des endroits les plus achalandés au niveau du trafic maritime et aérien. Il y a des routes, justement, qui longent.
Si vous regardez une carte des transports maritimes, des transports aériens, puis que vous situez le triangle des Bermudes, vous allez voir la quantité de lignes qui passent là, et de autant de bateaux que d'avions, que peu importe, il y en a énormément. Donc, si un bateau est dans ce secteur-là, il dit « Oh, oh, hi, hi, j'ai besoin d'aide », il y a énormément de bateaux autour qui vont l'entendre, et beaucoup de bateaux, parce que c'est la loi. On doit se porter au secours d'un bateau qui demande de l'aide. Mm-hmm. Donc, énormément de bateaux qui vont se diriger vers en direction de l'endroit où l'appel de secours de détresse est émis pour aller voir est-ce qu'on peut faire quelque chose, est-ce qu'on peut récupérer des gens qui seraient passés par-dessus bord, qui auraient quitté dans des navires, des bateaux de sauvetage, peu importe. On doit s'y rendre. Mm-hmm. Mais là, personne n'a bougé parce que personne n'a rien entendu. Mm-hmm. Donc, il y a juste pouf!
On n'a pas de témoignage.
Ben non.
Puis c'est ça qui est mystérieux. Mais là, on arrive au sujet de l'émission d'aujourd'hui.
Ben oui.
Qui est les explications.
Autant scientifiques qu'un peu plus farfelues. Mm-hmm. Moi, j'en ai une explication le dernier. Le navire, le navire cargo rempli de maïs qui s'en allait.
Le SS Poète qui allait en Égypte pour la cargaison de maïs.
Moi, d'après moi, il y a quelqu'un qui a jeté son botch de cigarette dans le cargo. Et là, le popcorn, mon homme, a fait que le bateau a... Tout simplement,
ça s'est transformé.
Il s'est volatilisé et les poissons ont mangé du popcorn pendant quelques semaines. J'aime ça dans ma tête, ce genre d'explication-là.
Ah, c'est très
drôle.
Des
fois, ça se vaut autant que d'autres explications que d'autres essayent de faire passer pour sérieux. Mais bon, on va y aller avec des explications un peu plus sérieuses ou des théories. Ça reste théorique.
Ça reste théorique. Cependant, on a fait des progrès, des liens qui nous ont... appris plein de choses sur la météo.
Ça nous amène souvent vers les sciences de la météo, exact. Justement, des endroits où il peut y avoir des événements particuliers, mm-hmm. puis on se rend compte qu'il y a peut-être des phénomènes météo particuliers à certains mm-hmm. endroits qui peuvent être récurrents, qui pourraient expliquer mm-hmm. certaines choses.
Il y avait j'ai trois phénomènes ici. Il y en a un que je vais tout de suite commencer par lui finalement, c'est pas une bonne théorie, ça n'a pas marché, on a même fait des tests.
Ah.
C'est les explosions sous-marines de méthane.
Aha.
Il y a des experts qui pensaient que c'était peut-être des explosions sous-marines de méthane. Alors, avec le réchauffement de la planète et tout, il y a une quantité de méthane dans certains endroits dans la croûte terrestre qui s'accumule après des centaines de milliers d'années. Et quand il arrive à la surface, il y a comme une explosion qui se crée et le méthane est dégagé d'un coup.
Okay.
Il y a des trous en Islande qui sont visibles de, pas de l'espace, là, mais de vue du ciel. Là, mm-hmm. C'est comme des trous... avec une circonférence parfaite.
Qui aurait été créée par ça.
Qui ont été créés par ça. Okay. Et ça a créé vraiment une explosion. Quand on dit explosion, c'est une explosion. Il y a des cratères qui ont été creusés en Islande dus aux explosions de méthane. Et c'est pas des petites explosions.
Ah non,
elles sont
okay.
énormes. Les trous sont gigantesques.
Dans ma tête, je voyais ça gros comme pour moi une tarte là, ou une tourtière.
Non, non, c'est quelques centaines de mètres de diamètre. Là.
Okay. Alors, une grosse tourtière.
Tu veux pas te trouver là quand,
non,
ça, quand
non,
ça arrive.
Ça doit être... ouais, hein.
Par contre, on pensait qu'en gros, lorsqu'il y en a sous l'eau, le méthane qui est dégagé change la pression, la composition de l'eau. L'eau devient plus gazeuse, donc plus légère.
Et là, les bateaux couleraient
d'un coup. Les bateaux couleraient d'un coup. C'est ça l'explication, mais on a fait des tests et tout. Oui, c'est possible. On a mis des barques là, où on simulait une explosion de méthane et là, la barque coulait, effectivement. Par contre, la coïncidence qu'un navire passe...
De toute façon, il est rarement stationnaire dans ce secteur-là. Fait que j'imagine que si ça arrive, le bateau est en mouvement à une certaine vitesse. Mm-hmm. Il a déjà son air d'aller. Faudrait quasiment qu'il soit arrêté pour que vraiment il y ait le temps mm-hmm. de couler à cause de ce phénomène-là. Dans ma tête, là, c'est comme ça que je le vois. Il va y avoir de l'eau gazeuse qui monte. Uh-huh. Mais si le navire arrive avec sa vitesse de croisière puis il passe au travers de ça, on va peut-être avoir quelque chose d'étrange qui va se passer. Mais de là à dire « flop », il tombe dans le fond, je pense pas. Ça doit être quand même un phénomène qui prend quelques minutes ou avec un bateau stationnaire. Les tests qu'on a fait, c'était, j'imagine, des objets stationnaires dans l'eau qu'on a fait oui. couler en mettant du gaz là, dans l'eau directement en dessous. Donc, je sais pas. J'aimais l'explication au début, mais finalement, dans ma tête, l'équation se fait pas.
Mais c'est les gens, justement, c'est exactement ce qu'ils disent dans les documentaires, dans les dossiers, c'est qu'il y a tellement de marins, il y a tellement de gens qui sont sur les mers à tous les jours. On n'a jamais vu vraiment là, d'explosion
non,
de méthane à la surface.
Deux bateaux à un côté de l'autre sont en train de se jaser, puis d'un coup, flop, il y en a un qui descend.
C'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, puis là, on est sur l'eau en masse. Là,
il y a quelques navires sur l'océan au moment où on se parle actuellement. Exact. Il y en a déjà plein.
Alors là, c'est là qu'on arrive à l'explication qui est, selon les scientifiques, véridique.
Oh! La vraie de vraie.
La vraie de vraie raison.
Mm.
Et là, ça va vous enlever le goût de prendre le bateau et d'aller sur l'océan. Si vous avez peur de l'avion puis vous dites « Ah, oh, ben là, je vais prendre un bateau de croisière pour traverser l'océan, ouais. C'est plus safe. » Non.
Okay.
Juste le mot, Jason, vague scélérate.
Oh là là!
Des vagues scélérates.
C'est des pas fines?
Non, c'est des pas fines. Dans le triangle, au-dessus du triangle des Bermudes, ouais. C'est un secteur où il y a beaucoup d'ouragans.
Oui, oui, oui.
Il y a beaucoup d'ouragans. Il n'y a pas juste des ouragans, il y a des orages qui se créent là, de juin à décembre. Il y en a tout le
c'est
temps.
C'est très actif au niveau météorologique, ce secteur-là, puis pas seulement le triangle, mais les alentours également. Mais c'est un secteur qui a énormément de phénomènes météo extrêmes qui se déroulent.
Mm-hmm.
À tous les années, c'est pareil.
Les bateaux sont habitués, les cargos sont habitués de passer là pendant un orage, sont habitués, sont bâtis solides, sont bâtis pour ça. Cependant, sont peut-être pas bâtis pour affronter une vague scélérate.
Scélérate.
Une vague scélérate. Ça,
oui, hein, c'est comme, pose une vague. Non, elle est scélérate. Ça commence à être de quoi. Mais qu'est-ce qu'on décrit comme une vague scélérate?
En gros, dans un orage, ça serait une vague sur 500, qui n'est pas toujours possible non
une
plus.
Une sur 500?
Oui, une vague sur 500.
On ne parle pas d'une sur 5 millions. Là.
Non.
500.
Pendant un orage, c'est une possibilité, c'est la
il faut que les circonstances soient parfaites encore pour créer le phénomène.
C'est ça, c'est une chance sur 500, mais ça se peut qu'il n'y en ait pas pendant les 50 orages et 50 orages qu'il y a dans l'année. Peut-être qu'il n'y en aura pas une. Par contre, peut-être que dans un orage, il va en avoir trois.
Okay.
C'est une chance sur 500 à chaque fois qu'il y a un orage. Mais en gros, c'est comme j'ai entendu parler que tu as une chance sur 80 de pogner un accident à chaque fois que tu rentres dans ton véhicule.
Oh, oui.
Ben, à chaque fois que tu rentres dans ton véhicule, mais peut-être
comme
que tu
as plus de chances de te faire tuer par une vache que par un requin.
Mm-hmm.
Et c'est statistiquement, c'est ça. T'as plus de chances qu'une vache te tue qu'un requin.
Donc, c'est assez rare, l'accélérate. Ouais. C'est assez rare, mais en gros, c'est le Gulf Stream. Il y a beaucoup de courant dans ce coin-là. Et en plus, il y a des gros vents. Alors, une vague accélérate, c'est pas compliqué. C'est une vague qui s'accumule avec une autre vague, avec une autre vague. Alors, c'est l'accumulation de plusieurs vagues qui crée une grosse vague,
okay.
Une vague scélérate qui est très rare, mais qui peut arriver, c'est prouvé scientifiquement, ça peut arriver. Et cette vague-là, fait pas de cadeau. Là. Si ça peut justement renverser un cargo de 11 000 tonnes, comme le SS Poète, facilement. On pourrait comparer ça à un tsunami qui disparaît sur la mer,
parce
sur
que
l'océan.
Un tsunami, c'est un peu ça, là. C'est les vibrations d'un séisme sous-marin ou très près de la côte, mm-hmm. qui fait que les vagues commencent tranquillement et c'est l'effet d'entraînement des vagues qui fait que quand ça arrive de l'autre côté ou à la berge, c'est un mur d'eau qui arrive.
Mm-hmm.
Donc, ça serait un peu le même phénomène, mais au milieu de l'océan.
C'est ça. C'est okay. Exactement ça. Ça se passe au milieu de l'océan. Et il y a aussi...
Est-ce qu'on a observé ça? Hey, je m'excuse, je te coupe. Là,
Non.
Mais dans ma tête, je me dis, mais si on parle de ça, est-ce que c'est théorique ou il y a du monde qui dit « Hey, regarde la vague scélérate là-bas! »
Il n'y a jamais eu de vidéo connue,
okay.
de ce que je voyais sur Internet. Par contre, à la quantité de naufrages qu'il y a eu dans le coin du triangle des Bermudes, on parle de centaines et des centaines de naufrages,
il y en a énormément.
Ça serait l'explication la plus véridique, okay. la plus plausible. Ça serait des vagues scélérates. Puis tu sais, quand on parle d'une vague scélérate, justement, c'est pas pour faire du sensationnel. C'est une vague qui chavire les navires,
ouais.
qui est là pour chavirer les navires. Tu peux pas te sauver d'une vague scélérate. Si tu vois une vague scélérate, tu pourras pas te faire une vidéo avec ton cellulaire.
Non, c'est ça.
Tu fais tes prières.
Tu t'en sortiras pas.
Non.
Donc, c'est un peu dur après ça d'envoyer ça sur YouTube ou sur Instagram et dire « Hey, j'ai vu une vague scélérate, bye-bye! »
Et tous les naufrages, ils disent que tous les naufrages, aujourd'hui, là, encore aujourd'hui, qui arrivent sur l'océan, sur la mer, dans n'importe où dans le monde...
Peu importe, là, pas juste le triangle des Bermudes, il y aurait un potentiel que certains soient causés par ce genre de vague.
Mm-hmm. Ça serait l'explication la plus plausible pour les naufrages de bateaux sur l'eau, tout simplement. Ça serait les vagues scélérates.
Écoute, j'ai un film qui a été fait basé sur un fait vécu qui s'appelle en anglais, je pense que c'est White Squall, le titre du film. Si je ne me trompe pas, c'est Jeff Bridges qui joue le rôle principal. Bref, c'est un collège pour garçons, quelque part là, dans les années 50, si je ne me trompe pas, qui part en voilier.
Okay,
ça fait partie d'une activité qu'ils font à chaque année. Et il arrive une catastrophe durant le voyage en voilier. Et on a tenté de prouver que c'était une vague particulière qui avait frappé le voilier et qui avait fait que, bon, certains des jeunes garçons étaient décédés et que, bon, et là, on veut remettre la responsabilité à l'enseignant ou au responsable du projet qui, lui, est en cours pour tenter de prouver qu'il y a bel et bien une vague tout à fait non conforme qui a frappé le bateau. Puis ça me fait penser à ça, ce que tu parles, parce que c'est arrivé pour vrai, ça, là. Il a vraiment été accusé et je me souviens plus comment ça finit. C'est plate, hein? Je comme, hey, le monde, il va
c'est basé sur une histoire vraie.
Puis finalement, c'est comme, j'ai aucune idée. Écoutez-les.
Ben, ça veut dire que.
Mais ça veut pas dire que c'est une vague scélérate comme mm-hmm. telle, mais c'est quand même une vague particulière que le responsable du projet, qui avait beaucoup d'expérience en mer, dit je n'ai jamais vu ça. Mm. La vague était gigantesque. On n'a rien pu faire. C'est impossible à éviter. Elle arrive trop vite. Il n'y a pas moyen de l'éviter. À juste passer.
Mais ça devait être ça, d'après moi.
Et là. Ça ressemble beaucoup à ce que tu racontes.
Le SS Poète, là, c'est un peu ça. Puis il y a beaucoup de cargos de la grosseur du SS Poète qui ont disparu dans le coin du Triangle des Bermudes, mais partout sur le globe.
Ailleurs,
aussi.
C'est...
Exact. Ça fait peur.
C'est quand même particulier.
Une vague scélérate! Ben, oui,
ben là, il n'y a rien à faire.
Non, exact.
Embarque dans la chaloupe de secours, oublie ça. Ah, oui, ça elle va ça. Te manger, la vague. Ah, hey, ça fait peur, ça. Yeah. Oui, on va faire une petite pause. Ben okay. Oui, ben oui on va prendre le temps de reprendre notre souffle un peu. Alors, on a parlé de la vague scélérate là, qui serait, selon les scientifiques, l'explication la plus plausible aux disparitions dans le Triangle des Bermudes.
Mm-hmm, des bateaux, hein. Exact.
Scélérate de vague. On est de retour, dossier bizarre, 7e épisode, et c'est la deuxième partie du Triangle des Bermudes, parce que juste avec les cas qu'on avait, c'était suffisant pour faire un épisode. Et avec les explications, autant scientifiques que farfelues, c'était suffisant pour faire un deuxième épisode. Fait plutôt faire un épisode d'une heure. On a divisé ça en deux. On est dans le deuxième épisode. On a parlé de deux explications. La première, c'était des explosions de gaz de méthane sous-marin. Ça fait pas de sens, ça marche pas. Et là, on vient de parler de la vague scélérate qui serait une vague hors norme. Tout à fait là, exceptionnel dans sa hauteur, sa puissance, sa rapidité qui fait que les navires n'ont même pas le temps d'appeler à l'aide. C'est comme « Oh, la grosse vague, flou qu'on est rendu dans le fond, c'est fini. »
Il est trop tard, tu peux rien faire. C'est pour ça qu'on n'aurait jamais eu de témoignages, de photos, de vidéos. La vague scélérate est sans merci. Elle se crée avec un orage au-dessus de notre tête et c'est vraiment l'accumulation de « c'est un hasard, c'est un peu un hasard, c'est une mauvaise coïncidence, il faut vraiment être malchanceux, mais c'est des vagues qui se frappent en même temps, qui s'accumulent l'une après l'autre et il y a le courant du Gulf Stream qui embarque avec ça. »
Qui vient engraisser encore mm-hmm. plus le phénomène, alors, qui expliquerait que dans ce secteur-là, on a peut-être remarqué une fréquence plus... plus haute de naufrage ou de. Mais ça explique pas les avions, ça, je pense à ça. Oh, Tristan!
On n'a pas les avions, mais là, ça s'en vient.
Ah, oh, ça OK. Fait que là, on aurait une explication pour les navires avec la vague mm-hmm. scélérate. Est-ce que les avions, ça a un lien avec la vague aussi ou
non.
Ça n'a rien à voir?
Ça n'a rien à voir.
OK. Fait que là, on aurait deux phénomènes distincts. Un pour oui. les bateaux et un pour les avions. Et les deux se tiennent?
Oui.
Ben, je t'écoute. Le Moi, deuxième. Je suis pas convaincu pantoute.
La deuxième explication scientifique pour les avions.
Oui.
Mais encore là, je vais placer un peu l'explication parce que cette. La deuxième explication météorologique, c'est encore concernant les bateaux,
ouais.
mais aussi les avions.
OK. Là, on en a un qui englobe les deux.
C'est ça.
OK, on y va.
C'est le grain blanc. Est-ce que ça dit quelque chose?
Ben, moi, c'est du riz. Ça. C'est quelque chose qui se mange, je sais pas.
Il y a
le grain blanc. Ben, tantôt, je parlais du film White Squall. Je pense que la traduction, ça serait peut-être ça. Grain blanc,
ouais.
J'ai aucune idée de la traduction littéraire, mais... Grain blanc, ça ferait du sens avec White Squall pour la vague gigantesque avec le navire, etc., dans le film là, que je parlais tout à l'heure.
Mais le grain blanc, ça fait peur aussi, mais c'est une explication qui est... en fait, c'est pas une explication, ça existe, on en a des preuves okay. scientifiques. C'était de base, autrefois, avant que la science connaisse des sommets comme aujourd'hui, c'était une légende, c'était un mythe, mm-hmm. le grain blanc. Les marins comptaient ça à leurs enfants. Pour leur faire peur, pour les décourager d'aller sur la mer. Ils disaient, écoute,
c'est un autre job.
C'est ça, va pas sur la mer, le grain blanc va te manger le bateau.
Deviens animateur de radio, deviens pas marin, le grain blanc va te tuer.
Exact, et c'était particulièrement...
Moi, j'ai écouté mon père.
C'est ça, ben, les navires à voile. Qui,
OK, particulièrement les navires à voile.
Oui,
okay.
Et en gros, le grain blanc, c'est pas compliqué, c'est un vent de 100 km/h et plus qui apparaît dans une belle journée ensoleillée.
Fait que soudainement, pouf! Du vent.
Tout d'un coup comme ça, là, une belle journée, on est en bateau. C'est souvent les bateaux à voile là, qui sont touchés par ça,
ouais.
et qui laissent vraiment, ça crée des naufrages. Le grain blanc, c'est un vent soudain de 100 km à l'heure et plus, donc 100, 120, 110.
On commence à parler de... Mm-hmm. On en a eu ici là, une couple de fois des vents qui frôlaient les 100 km heure, puis mm-hmm. on a beau être dans le salon chez nous, c'est impressionnant mm-hmm. et ça fait peur. Et... Quand on est dans la maison,
oui.
j'imagine sur un bateau, un voilier en plein milieu de l'eau, ça doit faire peur.
Et le fait qu'il n'y ait pas de nuages dans le ciel et qu'il apparaisse soudainement, c'est justement ce qui crée les naufrages, c'est que les navires n'ont pas le temps. Si le navire est de côté... Le grain blanc arrive et frappe le navire de côté. Mais là, ils n'ont aucune chance. Ça se fait en quelques secondes parce que le vent arrive d'un coup. Bang!
Aucun moyen de réagir.
Alors, le grain blanc existe, c'est arrivé, on l'a prouvé scientifiquement. C'est quand il y a des orages au loin, ça pourrait être... Le grain blanc est causé par de la pluie qui tombe sur l'eau.
Et ça déplace l'air.
Et ça refroidit l'air au sol, ce qui crée une spirale de vent qui est projetée tout autour de l'orage. Et qui vraiment qui s'en va très très loin. Là, qui,
c'est une... Fait que le voilier qui lui n'est pas dans l'orage et tout le monde est en train de se faire griller sur le pont en disant « Mais quelle belle journée! » Et soudainement, boum, un vent qui frappe là, à 100 km/h et plus.
Et pour les gens qui sont sur l'eau ici à Saint-Pierre, il y a beaucoup de pêcheurs ici, beaucoup de gens, beaucoup de monde qui font du bateau. On peut l'avoir vécu quand même ici, mais plus petit.
Ouais.
En gros, dès qu'on voit des nuages...
Un vent soudain, peut-être pas à ce niveau-là, mais c'est peut-être ça. Un vent qui vire ou un vent soudain qui apparaît là, comme ça à un moment inattendu.
Alors qu'on voit que l'orage est très, très loin. T'sais, on peut voir l'orage qui est à 10-20 km au loin. D'autres, on est sous le soleil, puis là, tout d'un coup, bam! Un gros courant de vent.
Ce serait le fun d'avoir quelqu'un qui l'a déjà vécu, parce que c'est pas le genre de phénomène qui est nécessairement mortel. On parle pas de la vague scélérate que là, quand tu vois ça, c'est fini, tu t'en sortiras pas. Alors que là, ça peut être... on a eu peur, mais je ne dis pas plus que ça, mais il y a un vent que, pouf, il est apparu comme un fantôme. Il n'était pas là, il était là, ça a duré quelques secondes ou quelques minutes, puis après ça, c'est revenu calme. Il y a peut-être des gens qui l'ont vécu, qui pourraient nous le dire, là, étant donné qu'on est dans un coin, pour les gens qui nous écoutent de l'extérieur. On est à Saint-Pierre, là, on est direct sur le bord, là, presque dans l'océan. Donc, on a des marins en quantité industrielle dans notre secteur.
Mais le phénomène du grain blanc, tu sais, ça arrive comme, on l'appelle pas le grain blanc quand... Ça fait des petites bourrasques et tout. Pour qu'on l'appelle le grain blanc, il faut vraiment que ça soit des vents de 100 km à l'heure.
Donc, il y a même une échelle. Là.
Oui, oui.
En bas de ça, c'est le grain brun, ou je ne sais pas comment on l'appelle.
C'est des vents causés
par... C'est juste un vent soudain, c'est mais ça. Plus de 100 km à l'heure, on peut parler d'un grain blanc.
Et il faut que le ciel soit dégagé au-dessus de notre tête.
Particulier.
C'est ça qui est difficile.
Et j'imagine que ces vents-là, c'est pas seulement la hauteur de la mer, donc ça pourrait expliquer que certains avions dévient ou se retrouvent à un endroit qu'ils n'avaient pas prévu, parce que ça reste quand même un objet qui est en vol, qui est en suspension dans l'air. S'il y a un vent épouvantable qui vient le frapper, peut se retrouver là, décalé ou se tasser un peu. Juste en voiture, des fois, hein, sur la route 138, là, vous croisez un camion remorque.
Oui.
Vous le sentez, là, wow, on dirait qu'il veut tirer l'auto. On le sent. Puis pourtant, on est en voiture qui est quand même assez lourde. Fait qu'imaginez un objet en vol suspendu dans l'air qui se fait frapper par un vent soudain comme ça. Ça peut avoir des conséquences, j'imagine.
C'est exactement ça. C'était les avions. On parlait, je te parlais du grain blanc qui cause les accidents, la disparition d'avions, et de bateaux et d'avions. Eh bien, c'est exactement ça. Les avions qui sont en basse altitude, qui volent un petit peu plus bas là, que d'habitude, qui frappent un grain blanc, là. Ça peut causer un accident, un crash d'avion là, immédiat.
J'imagine, ça peut même détériorer ou briser l'avion en plein vol.
Un vent de 100 km/h, bam, tu fonces là-dedans. C'est comme un mur. Là,
ben oui,
mur.
C'est ça.
Comme quand tu pognes un flat, quand tu sautes.
Ben oui, rentrer dans l'eau tranquillement, ça va bien, mais sauter du quatrième étage, la bédaine à l'air, puis atterrisser sur le ventre dans l'eau, c'est comme frapper c'est comme frapper le plancher. Là.
Ça fait un peu la même chose dans l'air. C'est un changement de pression soudain. L'avion est fait pour voler, mais de frapper un mur de 20-100 km à l'heure alors qu'il fait super beau, puis tu voles super confortable, super à l'aise, pas stressé.
Il n'y a pas de progression. Là. On passe de pratiquement pas de vent à un vent extrêmement fort. Soudainement, ça peut causer des bris à l'avion qui est en vol. Alors, vois-tu, en plus, c'est prouvé.
Ben oui, c'est ça. Deux phénomènes météorologiques extrêmes qu'on connaît sur l'océan, les vagues scélérates et le grain blanc, qui sont deux phénomènes que tu ne veux pas croiser en bateau. Ni en avion, mais qui peuvent arriver. Ça peut arriver.
On a mentionné quelque chose tantôt, Tristan, qui vient un peu briser la magie du triangle des Bermudes, qui, c'est une zone, là, bon, c'est une forme de triangle qui couvre 1 million de kilomètres carrés environ dans le secteur de Miami, des Bermudes et bon, dans ce coin-là. L'affaire, c'est que oui, il y a beaucoup de naufrages dans ce coin-là, oui, il y a beaucoup d'accidents d'avion. Mais oui, c'est comme une espèce d'entonnoir pour le trafic maritime, le trafic aérien. Donc, statistiquement parlant, c'est normal qu'il y en ait plus dans ce coin-là.
C'est exactement. C'était ma conclusion, Jason.
Je viens de te voler le poche, mais ça fait partie des explications, j'imagine. Oui. Parce que moi, dans ma tête, quand tu as dit mais c'est là que tout passe, t'as comme. Ben là, c'est normal qu'il y en ait plus. Si on va quelque part, il n'y a jamais de bateau. Il n'y en a pas de naufrage.
C'est pour ça qu'on est allé progressivement en deux épisodes avec justement les premières histoires, les histoires qui font peur.
Ça reste le fun pareil comme histoire. Ça se raconte bien. Exact. Mais quand on y pense avec la tête très froide, il y en a plus. Ben oui, mais il y a plus de trafic.
C'est ça. Puis plus on avance dans les données, plus on apprend des choses sur le triangle des Bermudes, on se rend compte que c'est ça que les experts disaient à la fin. Ils ont dit, prenez trois points n'importe où sur la planète où il y a du trafic maritime.
Ben oui, où il y a des voies maritimes.
On peut créer des triangles partout.
N'importe où.
Des triangles.
Et on va se finir par retrouver peut-être sensiblement le même pourcentage d'un naufrage ou de disparition. Mm-hmm. Les gens qui prennent la mer, les gens qui travaillent sur la mer, ben les pêcheurs, que c'est leur profession, ou des gens qui naviguent énormément, vous le savez à quel point ça peut être imprévisible quand on est en mer. Donc, que des navires disparaissent, des milliers de navires qui sont en mer 24 heures sur 24, des avions qui sont en vol, il y en a des milliers également à toutes les minutes du jour, qu'il y en a qui disparaissent sans explication, c'est juste normal parce qu'il y a des imprévus qui arrivent et des fois, par le temps, la personne pense que tout va bien. J'enverrai pas un message de détresse, je vais attendre 2 minutes, voir si ça se place et que dans ce 2 minutes-là, pouf, c'est fini. Elle ne l'a pas envoyé son message de détresse. Oh, il est disparu mystérieusement. Oui, parce que la personne qui aurait dû envoyer le message de détresse, elle a dit, mais attends encore 2 minutes. Je veux pas passer pour un cave, ça. Là. D'un coup, je dis, hey, ça va pas bien. Puis finalement, oh, ben non, tout est correct. Je vais passer. Je vais attendre 2 minutes, mais durant ces 2 minutes-là, il peut s'en passer des affaires. Mm-hmm. Et c'est peut-être ça qui fait que certains disparaissent, comme le fameux navire de maïs. Ben, peut-être que la personne qui est aux communications s'est fait dire, ta minute, je pense que c'est correct, là. Mm-hmm. Et finalement, ben, c'était pas correct. Puis entre le temps où il aurait pu envoyer le message de détresse et que le bateau a sombré ou que plus personne ne pouvait envoyer le message de détresse, il s'est passé quelque chose. Donc, c'est moi, dans ma tête, c'est juste statistiquement normal qu'il y en ait des événements comme ça. Mais ça fait des belles histoires à raconter, ça fait des histoires le fun. Et là, on en a compté 4, mais si vous faites des recherches, il y en a des milliers et des milliers d'histoires. Là. Puis on dirait que les gens, à un moment donné, s'ambitionnaient aussi. Hein. « Ouais, toi, tu connais le gars qui a fait 80 km en 2 secondes. Ah ouais, mais moi, j'en connais un. Que... » Et là, ça devient des histoires de pêche aussi, où tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui s'est fait raconter quelque chose. Et ça fait des histoires qui sont super embellies. Mais avec les années, parce que moi, j'avais peur du Triangle des Bermudes quand j'étais petit, ça me faisait peur.
Ouais.
Il y avait des films là-dessus. Puis c'était pas expliqué encore, parce que les sciences météorologiques, à la fin des années 70, début des années 80, on était loin d'être rendus où on est aujourd'hui. Et ça restait inexpliqué. Mais ça me faisait peur. Et avec les années, ben les explications ont commencé à devenir de plus en plus concrètes et scientifiques. Mais ça reste mystérieux et ça va rester un des plus grands mystères, ou un des mystères à la plus grande envergure.
Oui.
Parce que ça rejoint les ufologues, ceux qui disent « Ah, c'est des extraterrestres.
Mm-hmm.
Les extraterrestres, ils vont voler les gros bateaux. » C'est comme ça. Il y en a qui disent qu'il y a une base extraterrestre dans la mer également,
oui,
ou qu'il y a un portail vers un monde extraterrestre.
Oui. J'ai pas le temps d'en glisser un mot.
Ah, vas-y. S'il y en a quelques-unes de farfelues, on peut prendre deux minutes de plus.
Tu parles des capsules, des soucoupes volantes.
Oui.
Il y a comme des trous bleus à certains endroits dans les Caraïbes.
Absolument, les gens qui survolent voient des espaces qui ont de l'air étrange, hein, sur au-dessus de l'eau, dans l'eau plutôt.
Oui, c'est ça, puis c'est des trous, là, des cavités en cercle qui sont très très profondes, en forme de cercle, c'est très très étrange. Et géologiquement, là, l'explication géologique de la formation de ces trous-là, c'est extrêmement complexe, c'est même un dossier pertinent pour les scientifiques qui sont géologues aujourd'hui.
Là, on parle de vraies sciences, là,
oui,
de gens qui veulent comprendre pourquoi ces trous-là existent.
Ah, c'est vraiment touché, là.
Mais pour plusieurs, c'est un passage vers le monde extraterrestre.
C'est carrément un passage où c'est un portail vers une autre dimension ou un endroit.
Un trou noir, l'ai entendu ça aussi, un petit trou noir situé dans le triangle des Bermudes qui fait qu'on peut voyager à des millions d'années-lumière instantanément quand on passe par là, et que les extraterrestres volent les avions et les bateaux, les amènent dans ce trou-là, et là, ben c'est ça. C'est comme, on est rendu où, là?
Ah, ça pourrait être... Ça, c'est sûr que ça fait... On pourrait penser à toutes sortes d'hypothèses loufoques, mais tant qu'à ça, on pourrait penser aussi à un genre de Godzilla sous-marin.
Ben, pourquoi pas?
Qui fait juste comme... Il sort son bras du trou, puis il ramasse les bateaux qui passent là, les avions.
Faites attention, le maïs de 1980, il en manque, là. Fait que si vous transportez du maïs, passez pas au Triangle des Bermudes, il a faim.
C'est ça. Comme dans le film Pacific Rim, là, des grosses créatures qui vivent dans le fond de l'océan. Je regarde trop de films, Jason.
Ah, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Mais ça reste qu'il y a... On commence à prouver certains phénomènes d'un point de vue scientifique, d'un point de vue météo. Ça reste que pour certains, ça demeure inexpliqué et ça ouvre la porte à tout plein de théories. On a parlé d'Atlantide tantôt.
Oui.
Plusieurs qui disent que c'est là. C'est dans le Triangle des Bermudes, ça a coulé là, elle a été engloutie là, mais il y a encore des gens qui y habitent et c'est les phénomènes qu'on remarque ou qu'on vit dans le Triangle des Bermudes. Alors que si on prenait le triangle et on le déplaçait, comme tu as dit, n'importe où ailleurs où il y a la même quantité de trafic aérien et maritime, on aurait sensiblement les mêmes statistiques.
Exact. Dans tant de kilomètres carrés sur la Terre, là, partout où il y a là, à peu près du trafic maritime, comme tu le dis, trafic aérien, il y a à peu près tout le temps le même nombre de naufrages.
On ne peut pas dire qu'il y a une hausse significative mm-hmm. dans ce secteur-là comparé à un autre sensiblement identique.
Mais ce qu'on se rend compte aussi à travers ça, t'sais, pour finir, là, c'est que la nature, sur l'eau et dans le ciel, c'est pas tout le temps...
Ça fait peur!
Ça fait peur. Ça donne pas les... Moi, j'ai peur de l'avion. Je peux te dire une chose, Jason. En
ça ça te rassure pas, ça, hein?
Ça me rassure pas. Je me suis rassuré sur le triangle des Bermudes. Je suis plus rassuré sur le triangle des Bermudes. Ça me fait moins peur, mais tabarouette que bateau, avion, là, ça me donne pas le goût.
Non, c'est le genre de phénomène, puis d'imprévu, puis de c'est une suite de coïncidences météo qui crée des phénomènes, des fois, qui peuvent causer de l'imprévu. Et les gens qui, j'imagine, les pilotes d'avion, là, les pilotes de ligne là, qui... 7 jours sur 7 sont dans les airs, ont probablement des histoires ben à raconter oui. qui ne sont pas au triangle des Bermudes, mais des trucs qui se leur sont arrivés et qui ne peuvent pas s'expliquer. Ou qui disent soudainement l'avion a perdu 10 000 pieds ou il s'est passé quelque chose. Et des phénomènes météo, des phénomènes inexpliqués comme ça, mais qui sont scientifiques. Il y en a encore énormément. Mm-hmm. Mais c'est bon pour nous autres parce que ça amène aussi des gens un peu plus farfelus à créer des phénomènes paranormaux comme le triangle des Bermudes oui. ou bon, peu importe là, le phénomène. Il y a des gens avec beaucoup d'imagination qui vont dire non, il n'y a rien de scientifique là-dedans, c'est les extraterrestres.
C'est ça.
Hey, ben merci beaucoup.
Ben, ça fait plaisir.
C'était tout un sujet.
Ben oui, gros dossier.
Absolument.
Le triangle des Bermudes, dossier.
On règle les affaires, nous autres, ouais. Les vraies affaires. Hey, merci Tristan.
Ça fait plaisir.
Puis merci à tout le monde qui nous ont écoutés encore une fois. Bye bye.